Jeudi 26 mars, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du 12-13. Au sommet, retour sur la visite de la présidente du Conseil des ministres italien en Algérie. Giorgia Meloni a été reçue par le président de la République. En plus de l'énergie, les deux responsables ont convenu d'élargir la coopération à d'autres domaines. Algeria Invest Expo, c'est parti au centre des conventions d'Oran. C'est parti pour la 8e édition. Seul événement à réunir 5 secteurs différents. La CAGEX organise aujourd'hui le premier rendez-vous annuel des exportateurs sous le thème Safe Access to Africa, à suivre dans le magazine un entretien avec le PDG de cet organisme. Terrible accident de train ce matin à Ain El Baida, dans la commune de Ain El Baida. Il a coûté la vie à un homme âgé d'une quarantaine d'années. À l'étranger, les chefs de la diplomatie du G7 sont réunis pour évoquer notamment la guerre au Proche et au Moyen-Orient, qui ne montre pas de signe d'affaiblissement. Et puis sport, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a animé ce matin une conférence de presse en prévision du match face au Guatemala. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue, Siham Bacha au micro pour ce 12-13. On commence d'abord par le magazine de cette édition et la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations. La CAGEX y organise le premier rendez-vous annuel des exportateurs sous le thème Safe Access to Africa. Elle réunit des experts nationaux et internationaux, des responsables de compagnies étrangères spécialisées dans l'assurance et la réassurance du crédit à l'exportation. Entretien avec le PDG de la CAGEX, Zohair Laïch, répond aux questions de Hassan Chemmach.
Monsieur Zohair Laïch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président directeur général de la CAGEX. C'est quoi la CAGEX?
La CAGEX est une compagnie d'assurance des risques crédit. C'est une compagnie d'assurance publique, évidemment, spécialisée dans la prise en charge de ce genre de risque.
Quel est l'objectif principal de ce premier rendez-vous annuel des exportateurs?
Ce rendez-vous-là, que nous avons intitulé le rendez-vous annuel des exportateurs algériens, vise pratiquement trois objectifs. D'abord, montrer les potentialités et tout le potentiel du continent africain, le continent auquel on appartient. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, voir quel est l'instrument le plus important au jour d'aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer pour justement pénétrer ce marché africain. Et le troisième élément, c'est celui de mesurer, analyser et maîtriser les risques en Afrique pour accompagner sérieusement et correctement nos exportateurs vers l'Afrique.
Vous avez choisi une thématique. Alors, Safe Access to Africa. Pourquoi cette thématique?
Tout simplement pour dire que on peut aller vers l'Afrique, on peut supporter des risques auxquels on pourrait être exposé, et on peut effectivement faire des affaires en Afrique en choisissant les endroits précis pour justement réaliser cet objectif et en ayant un accompagnateur comme la CAGEX avec nos exportateurs.
Quels sont aujourd'hui les principaux défis rencontrés par les exportateurs algériens vers le marché africain?
Nos exportateurs sont extrêmement dynamiques. Il suffit tout simplement de leur montrer la voie, de leur montrer les marchés, de les rassurer en ce qui concerne les acheteurs africains et de les accompagner sérieusement en leur offrant une assurance qui leur permet de faire les affaires dans un espace sécurisé. Ce qu'ils attendent de nous. Et nous, nous voulons impérativement réaliser cet objectif.
Le potentiel est là, Monsieur Yaïf. Le
potentiel africain est énorme. Le potentiel algérien est énorme également.
Il y a plusieurs secteurs qui ont ce potentiel.
Exactement, exactement. Nous avons des secteurs pratiquement leaders dans certains produits. Nous avons des demandes en Afrique, des demandes extrêmement importantes en Afrique. Il suffit de faire la connexion entre les deux et accompagner tout ce mouvement-là pour aller justement réaliser des exportations de qualité.
Monsieur Laïch, dites-nous concrètement, comment vous accompagnez, comment la CAGEX accompagne-t-elle les exportateurs algériens?
Nous avons pratiquement 3 ou 4 opérations que nous faisons dans ce genre de situation. Nous avons tout d'abord l'analyse économique à la fois des marchés, des acheteurs avec lesquels nous voulons réaliser des affaires. Toute cette étude-là de maîtrise, de connaissance des marchés permettrait que nous remettons entre les mains de nos exportateurs, permettrait donc à ces derniers-là d'apprécier le risque et de décider en fonction, en connaissance de cause. Ça, c'est le premier élément que nous faisons. À côté de cet élément, nous avons lancé, à partir de l'IATF, à partir des journées organisées par l'Algérie pour abriter justement l'IATF, nous avons organisé, nous avons lancé un autre service, c'est celui de la mise en relation. Nous voulons faire de la connexion entre les acheteurs africains et les exportateurs algériens. Cette connexion-là permettrait donc à la fois, avec une étude à l'appui, permettrait à nos exportateurs d'aller en étant rassurés. En plus de cela, nous accompagnons nos exportateurs à travers une assurance appropriée pour justement boucler la boucle. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous avons un quatrième point sur lequel nous insistons énormément, c'est celui du recouvrement. En cas de problème en Afrique, en cas de non-paiement en Afrique, on intervient à la place de l'exportateur pour récupérer les fonds de transactions commerciales.
Très bien. Un dernier mot, Monsieur Laïch.
Tout simplement, je leur dis, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez tous le potentiel et les moyens qui vous permettraient d'aller là où vous voulez dans le monde. Commençons d'abord par le continent auquel nous appartenons et vous avez la Cajax avec vous. Quand vous avez la Cajax à côté de vous, pratiquement vous avez le monde à votre portée.
Monsieur Laïch, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci de m'avoir invité justement à partager avec vous nos préoccupations et nos ambitions en matière donc de développement des exportations hors hydrocarbures.
Merci beaucoup.
Pour sa part, la CNAS accompagne ses assurés. La Caisse nationale d'assurance sociale mène en ce moment une campagne d'information et de sensibilisation. La Caisse tente de faire connaître à ses assurés tous les services disponibles en ligne. L'exemple à Tébessa avec la correspondance de Bachel Delbassi.
Une campagne de sensibilisation sur les services numériques et la modernisation a été organisée par le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l'Emploi. À ce sujet, le directeur de la CNAS, Mbaye Salah, s'est exprimé.
Cette campagne entre dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Elle vise à instaurer les principes de la transparence, l'efficacité et la consécration de la transformation numérique comme choix stratégique irréversible.
Tandis que le directeur de la CNR a également apporté des précisions.
Aïs El Mahdi Mchoud, directeur par intérim de la CNR, agence locale de Tbessa. La question des retraites met en avant les avancées majeures de la numérisation au service de nos citoyens. Aujourd'hui, le secteur de la sécurité sociale connaît une avancée importante grâce à la digitalisation, permettant un accès plus rapide, plus simple et plus transparent aux services. Les retraités peuvent désormais obtenir leurs documents à distance, suivre leurs dossiers en ligne, et même de bénéficier de services innovants comme le suivi de leurs dossiers en ligne ou les SMS. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de l'accueil et réduire les déplacements afin de rapprocher davantage l'administration du citoyen.
De Tébessa, Béchidri Bessi pour Alger Chien 3.
Jusqu'à la fin mars, les artisans dressent leur chapiteau à la promenade des Sablettes à Alger, un lieu fortement fréquenté, particulièrement le week-end et durant les vacances, et qui leur offre une belle visibilité pour commercialiser leurs produits. Khadija Rezel.
Aux Sablettes, les allées se parent de couleurs, de textures et de parfums venus des quatre coins du pays. Ici, chaque objet raconte une histoire, celle d'un geste transmis, d'un savoir-faire façonné par le temps et d'un patrimoine que les artisans s'efforcent de préserver. Parmi eux, certains perpétuent des traditions familiales intimement liées à la terre et aux saisons. C'est le cas de ces olives préparées selon une méthode traditionnelle héritée des parents et des grands-parents. Nikesh Mourad, responsable de Biovia Artisanal.
Le processus de fabrication, c'est une méthode traditionnelle qu'on a héritée de nos parents et grands-parents qu'on va la transmettre à nos enfants. C'est des olives séchées au soleil, donc une fois noires dans l'arbre, on laisse sécher au soleil et on rajoute uniquement du sel. Après, on le trempe dans l'huile d'olive. On a évité de sorte qu'il y aura zéro champignons et moisissures. C'est un processus qui nous permet de préserver tous les bienfaits de ces olives et l'huile d'olive aussi. Par exemple, on fait la récolte aujourd'hui, donc l'extraction de l'huile, ça sera demain pour conserver tous les bienfaits de l'huile d'olive. C'est un patrimoine kabyle, donc c'est des olives aussi de la région de Kabylie. C'est la variété Chemlel, donc destinée à l'huile d'olive.
Mais le patrimoine ne se savoure pas seulement, il se porte également. Dans les stands, les habits traditionnels racontent aussi l'histoire et l'identité des régions algériennes. C'est le cas de l'atelier d'Ihia.
La robe kabyle traditionnelle, ce qu'on appelle zakandors. C'est un emblème culturel berbère, algérien, caractérisé par des couleurs vives, avec des motifs brodés et des galons zigzags. Il est porté avec une fauta et un foulard, symbolisant l'identité, la joie et la nature. C'est un habit purement traditionnel porté par nos mères et grand-mères dans la région de la Kabylie. On veut préserver ce patrimoine et on travaille pour le transmettre aux futurs générations. Et aux jeunes. Ça revient, ils sont les marchés, les occasions, et pas que dans la Kabylie.
Et parmi les pièces emblématiques, le burnous occupe une place particulière, symbole d'élégance et d'authenticité. Il continue d'être confectionné selon des techniques artisanales transmises au fil des générations. Bourouissa Rachida, une artisane spécialisée dans les vêtements traditionnels.
Nous avons plusieurs types de burnous, le burnous en poil de chameau, le burnous en laine. Ce burnous est un héritage que nous ont légué nos ancêtres et il est de notre devoir de le préserver avant qu'il ne disparaisse pas avec le temps. Nous continuons à le confectionner avec passion et engagement en veillant à le transmettre aux générations futures. La fabrication du burnous commence par le choix de la matière première. Ensuite, ces matières sont nettoyées, lavées, puis préparées pour être travaillées. Nous réalisons le burnous étape par étape jusqu'à obtenir un produit traditionnel authentique qui reflète notre identité et notre culture. Par ailleurs, nous organisons des ateliers de formation au profit des jeunes générations afin de leur apprendre à fabriquer ce produit et de préserver ce savoir-faire.
À travers cette exposition, l'objectif est justement de valoriser ces métiers et d'encourager la transmission de ce patrimoine vivant. Hessania Rachida, chargée de communication de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers.
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements nationaux visant à valoriser et à promouvoir le patrimoine artisanal algérien, tant au niveau local que national. Elle réunit 30 artisans et artisanes venus de différentes wilayas du pays qui exposent une variété de produits et de créations traditionnelles. Ce salon a pour objectif d'offrir des espaces aux artisans afin de leur permettre d'exposer et de commercialiser leurs produits tout en contribuant à la préservation du patrimoine national, au renforcement de l'identité culturelle, à la création d'espaces permanents de communication et d'échange d'expériences, ainsi qu'à l'encouragement de la production locale pour promouvoir le produit traditionnel.
Entre gestes hérités et regards tournés vers l'avenir, l'artisanat algérien continue de faire vivre une identité et une mémoire collective.
Et voici à présent une idée pour occuper les enfants durant les vacances scolaires, une initiation plutôt au théâtre à travers le projet Holm. Sid Ali Fares nous en dit davantage.
Après avoir semé les graines à mascara et fait vibrer les sables de Béchar, la quatrième édition du projet Holm s'apprête à jeter l'encre à Tipaza. 14 établissements scolaires deviennent des laboratoires d'éveil. Le responsable du projet, Hossein Mokhtar.
Il faut ramener les jeunes élèves à l'école pour changer leur vision envers l'école. C'est beaucoup plus, c'est l'accompagnement psychologique à travers des exercices, beaucoup d'actions environnement, de peinture et de musique. Si on n'a pas gagné des comédiens, on va gagner un public.
L'école ne se contente plus de tableaux noirs. Elle s'ouvre au théâtre, à la musique, à la danse et à la conscience de protéger l'environnement. Kerim Tidjani, formateur en développement durable.
Je vais former huit encadreurs des enfants à ce que j'appelle moi l'éducologie. Pas seulement l'éducation à l'écologie, mais aussi l'écologie de l'éducation. C'est-à-dire comment construire un atelier qui sera pas un cours classique, mais une expérience que vont vivre les enfants à travers le théâtre pour comprendre ce que c'est un écosystème, ce que c'est le développement durable, et comprendre aussi que, en fait, au final, l'écologie, c'est l'intelligence de l'habitat. C'est comprendre, en fait,
chaque discipline du projet Holm est une fenêtre ouverte sur le monde. Le formateur en éveil artistique Khaled Belhadj.
Apprendre à accompagner les enfants jusqu'à l'univers poétique. Et de là, à imaginer des choses et pourquoi pas concrétiser, agir. Il faut que nos enfants apprennent à affronter chaque seconde et la vivre pleinement. Bien sûr, les libérer un petit peu de ce côté oppressif, directif, où les enfants sont coincés et ils sont démunis de leur spontanéité, où toute la création réside.
L'essence de Holm, apprendre à nos enfants que leur imagination est le plus puissant des bagages pour affronter demain. (Musique)
Il est 12h15 minutes. Rostami Hachif nous a rejoint pour la deuxième partie de ce magazine consacré au sport. Rostom, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec le football. Le sélectionneur national Petkovic qui a animé ce matin une conférence de presse.
En prévision du match amical de demain, le premier match amical pour la sélection nationale pour ce stage du mois de mars, ça sera, je rappelle, face au Guatemala à partir de 20h30. Vladimir Petkovic accompagné de deux joueurs, Houssem Aouad et l'attaquant Amine Gouiri. Concernant la liste, il a évoqué des joueurs qui pourraient être retenus à la Coupe du Monde. Vladimir Petkovic a déjà son idée et il a une liste élargie. Et que pour lui, eh bien, ce stage du mois de mars déterminera ceux qui mériteront leur convocation pour le mondial. Le sélectionneur national a également évoqué la convocation du défenseur de l'USM Alger, Achraf Abada, estimant que c'est un joueur important avec beaucoup de qualités, remarqué notamment lors des séances d'entraînement depuis le début de ce stage, mais qu'il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter à l'environnement de la sélection nationale. Sur le poste de gardien de but, puisque le sélectionneur national, je rappelle, a convoqué 4 gardiens, on pourrait voir 2 gardiens différents lors des 2 matchs face au Guatemala demain et face à l'Uruguay mardi prochain. Les 4 gardiens, selon le sélectionneur national Vladimir Petkovic, ont beaucoup de qualité. Pour sa part, eh bien, Houssem Aouad, le milieu de terrain de la sélection nationale, a exprimé d'abord sa déception par rapport à son absence lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle, blessé juste avant le départ de la sélection nationale pour prendre part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais fera le nécessaire et fera tout pour être présent au mondial en restant bien sûr concentré sur les prochains matchs de préparation des Verts. Ce soir d'ailleurs, la sélection nationale se déplacera vers la ville de Gênes où est prévu demain la rencontre face au Guatemala. Je le rappelle, ça sera à partir de 20h30 et la sélection nationale également disputera son deuxième match amical face à l'Uruguay le mardi 31 mars à 19h30 à l'Alliance Stadium de Turin. Hier, la sélection nationale qui a poursuivi sa préparation en prévision de ce match face au Guatemala, où les coéquipiers d'Oyad Mahrez ont effectué une nouvelle séance d'entraînement sur les terrains du centre d'entraînement de la Juventus, avec un travail axé principalement sur l'aspect tactique. La bonne nouvelle du jour, c'est la présence à l'entraînement de Hichem Boudewi, qui avait manqué les 2 premières séances en raison d'un état grippal. Voilà ce qu'on peut dire donc, et de la conférence de presse de ce matin animée par Vladimir Petkovic et les deux joueurs Houssem Aouad et Amine Gouiri également, la préparation des Verts pour le match de demain face au Guatemala.
On va passer au championnat national. Le Mouloudia d'Alger consolide sa place de leader après sa victoire face au Serbe.
Victoire 1-0. Elle est importante cette victoire pour les Mouloudéens en battant dans le derby algérois le Serbe grâce à son attaquant Zakaria Naïdji à la 2e minute. On va écouter sur cette victoire tout d'abord le gardien de but du Mouloudia d'Alger, Abdelatif Ramdan, au micro de l'autre Fibénidia.
مقابلة كانت صعبة كجميع مقابلات البطولة ظننا استهلنا الفوز كنا أكثر حضور وأكثر ثيسية في الالتحامات الحمد لله 3 نقاط هذه حتخلينا نحضر المباراة القادمة بأريحية إن شاء الله وعندنا 3 سنوات إحنا في الصدارة لا سيما هذا الموسم من بداية الموسم إحنا في الصدارة درنا خطوة كبيرة للقب إن شاء الله مازالوا المقابلات الجايين نضمنوها 100% إن شاء الله.
C'était le gardien de but du Mouloudia d'Alger, Abdelatif Ramdan. Donc cette victoire qui permet aux Mouloudiens de consolider leur première place au classement général avec désormais 49 points avec 3 matchs en moins et 9 longueurs d'avance sur leur dauphin. La JS Saoura, de son côté, après cette défaite à domicile, le Chabab reste scotché à la 7e place avec seulement 32 points au compteur et 4 matchs en moins. Toujours en mise à jour de la 16e journée, l'USM Alger s'est incliné à domicile face à la JS Kabylie 1-0. C'était au stade du 5 juillet. L'unique but de la rencontre a été marqué par le défenseur Mohamed Lamine Medani de la tête à la 11e minute. Justement, on va écouter le buteur du côté de la JS Kabylie, Mohamed Lamine Medani, au micro d'Ali Hamouche.
La victoire, donc alhamdoulilah pour la suite. On a bien préparé par rapport à le match, on a fait une stratégie par rapport à l'adversaire, c'est l'essentiel. On a le moral beaucoup plus de temps, donc on a le moral au point où on a perdu les qualités. Donc alhamdoulilah, beaucoup plus de match, c'est tout à fait normal. Donc, inshallah, pour la suite.
Et il faut dire que le gardien de but de la JS Kabylie hier, hein, Gaïa Mazbah, a été l'homme du match puisqu'il a réussi à lui seul à préserver l'avantage de la JS Kabylie jusqu'à la fin du match. Justement, on va écouter cette fois-ci du côté de la JSK l'entraîneur intérimaire de la JS Kabylie, Rabah Ben Safi.
On s'est attendu que ce match, ça va finir par un détail. Donc, surtout les balles arrêtées. D'ailleurs, même j'ai dit aux joueurs, peut-être aujourd'hui, c'est la balle arrêtée qui va faire la différence. Et ce qui s'est passé. Ce qu'on a travaillé aux entraînements, on a travaillé beaucoup plus l'équilibre défensif. Parce qu'on a imaginé ce scénario de marquer, puis de fermer les espaces pour l'adversaire. Et alhamdoulilah, on a réussi, tant mieux pour nous.
Et donc la JS Kabylie qui s'est imposée 1-0, je rappelle, face à l'USM Alger. De son côté, par contre, l'entraîneur sénégalais des Rouges et Noirs, Lamine Ndiaye, reste déçu de la prestation de ses joueurs.
Je m'attendais à tout sauf ça. Mais encore une fois, après les gros matchs, il y a une certaine déconcentration. Ça s'est vu parce que prendre un but comme on a pris là, on n'a pas le droit. Surtout, on en a parlé avec des images à l'appui, même pas une heure avant que ça n'arrive. Parfois, c'est la maladresse. Parfois, c'est excès de précipitation aussi. C'est dans ce domaine-là, on doit faire beaucoup de progrès parce que tu peux pas te créer autant d'occasions et puis perdre. C'est décevant.
Voilà, c'était Lamine Ndiaye, l'entraîneur de l'USM Alger suite à la défaite des Rouges et Noirs, 1-0 à domicile face à la JS Kabylie.
En basketball, cette fois-ci, le Mouloudia d'Alger se qualifie pour les playoffs.
En battant le Chebab Eladi de Benissaf sur le score de 82 à 62 lors du premier match des play-in hier, grâce notamment à un double-double de son pivot, Sadiq Touati, qui a enregistré 26 points et 17 rebonds, élu MVP de la rencontre. On va écouter l'entraîneur du Mouloudia d'Alger sur cette qualification, Mohamed Bazich.
C'est le match de la saison. On voulait cette 7e place pour accéder aux playoffs. Alhamdoulilah, on l'a eu. Ils se sont bien battus. C'était un match plein d'engagement. Notre objectif, c'était les 2 points. On les a eu. Un petit mot aux supporters qui nous ont soutenus toute la partie. Hier, à l'entraînement, un groupe est venu pour motiver mes joueurs. Je leur dis merci beaucoup. Inch'Allah, on va aller le plus loin possible.
Ce succès permet donc aux Mouloudéens de composter leur billet pour les quarts de finale des playoffs où ils affronteront le Wydad de Boufarik, deuxième de la phase régulière dans un classique du championnat. De son côté, le Chebab Eladi de Benissaf disposera d'une seconde chance lors d'un ultime duel prévu ce dimanche 29 mars en croisant le Chebab Eladi de Dalbeda qui a battu dans l'autre match des play-in le CS Egede Constantine 71 à 57. On écoute Faïd Bilal, l'entraîneur du Chebab Eladi de Dalbeda, au micro de Reda Benagoudjil.
Il nous reste un match très très dur contre l'équipe de Benissaf chez eux. Ils n'ont qu'à se faire plaisir mes joueurs et prendre de l'expérience contre une équipe au basket et puis contre un public impressionnant. Nous, notre objectif il est atteint. C'est notre objectif dès le départ. Dès que j'ai pris cette équipe, c'était le maintien. Le maintien il est acquis. Donc les joueurs vont se faire plaisir.
Et le gagnant donc de cette confrontation entre Benissaf et Dalbeda décrochera la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs et sera opposé au leader, le NB Stawali, champion en titre lors des quarts de finale programmés à partir du 3 avril prochain.
En NBA, cette fois-ci, les champions en titre Oklahoma s'inclinent face à Boston.
Sur le score de 119 à 109, mais conservent leur première place de la conférence Ouest. Et cette défaite fait les affaires des San Antonio Spurs, qui dans le même groupe de la conférence Ouest se sont imposés en déplacement face au Memphis Grizzlies 123 à 98 et se rapprochent de cette première place qui est entre les mains d'Oklahoma City Thunder. De leur côté, les Detroit Pistons se sont inclinés face aux Hawks d'Atlanta après prolongation 130 à 129. Miami Heat s'est imposé en déplacement 120 à 103 face à Cleveland. Philadelphie a battu Chicago Bulls 157 à 137. Et puis cette information concernant la NBA, les responsables de la NBA qui ont approuvé hier l'ouverture des négociations pour la création de 2 nouvelles franchises en NBA à Las Vegas et à Seattle à l'horizon de la saison 2028-2029 qui porterait donc de 30 à 32 le nombre de franchises engagées dans la prestigieuse compétition.
Retour au football international cette fois-ci et le communiqué du tribunal arbitral du sport.
Qui a annoncé hier avoir enregistré un appel introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la décision de la CAF relative à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'appel déposé le mercredi 25 mars conteste la décision rendue par la CAF le 17 mars. Décision honteuse ayant déclaré la sélection sénégalaise battue par forfait en finale. La Fédération sénégalaise qui demande au TAS d'annuler cette décision et de la déclarer vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle sollicite également la suspension immédiate du délai de dépôt de son mémoire d'appel dans l'attente de la notification des motifs complets de la décision de la CAF, laquelle ne contenait jusqu'ici que le verdict du jury d'appel. On va parler de la République démocratique du Congo, en pleine attente de connaître son adversaire pour l'ultime match qualificatif à la Coupe du Monde 2026. La RDC a parfaitement négocié son match amical hier face aux Bermudes. Les Léopards se sont imposés 2-0. La RDC a un rendez-vous avec l'histoire le mardi 31 mars à l'occasion de la finale des barrages intercontinentaux qualificatifs au Mondial 2026 face aux vainqueurs du match opposant cette nuit la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Dans l'autre tournoi barrage, ça se passe à Monterrey, ce sera la Bolivie et le Suriname ou l'Irak. Les deux premières équipes, Bolivie et Suriname, s'affronteront ce soir à 23h et le vainqueur sera opposé à l'Irak le mercredi 1er avril à 5h. Les barrages mondiaux en Europe, tous les regards seront braqués sur l'Italie, absente des deux derniers mondiaux après avoir été éliminée en barrage. La nationale sera opposée à l'Irlande du Nord ce soir à 20h45, tout comme les Pays de Galles face à la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine face à la Suède, Slovaquie, Kosovo, Danemark, Macédoine du Nord, République Tchèque, Irlande à 18h, Turquie face à la Roumanie. Et puis les vainqueurs de ces rencontres s'affronteront lors du dernier tour prévu le 31 mars, le mardi 31 mars. Et il y aura également les matchs amicaux ce soir pour préparer ce mondial 2026 avec cet alléchant France-Brésil à 21h, également Colombie-Croatie et Qatar-Serbie. Demain, mis à part Algérie-Guatemala, il y aura également Angleterre-Uruguay. L'Argentine, l'adversaire des Verts face au Mondial, affrontera la Mauritanie et l'Autriche face à la République de Corée, la Jordanie face au Costa Rica.
Très bien, on vous retrouvera tout à l'heure dans le journal, soit à partir de 12h30.
Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal.
Le journal de la mi-journée présenté par Siham Bacha. Siham, bonjour.
Rostom, bonjour. Au sommet, retour sur la visite de la présidente du Conseil des ministres italien en Algérie, Giorgia Meloni, a été reçue par le président de la République. En plus de l'énergie, les deux responsables ont convenu d'élargir la coopération à d'autres domaines. En prévision de Eid al-Adha et en application des directives du président de la République, un premier quota de moutons importés d'Espagne constitué de 12 350 têtes a été réceptionné ce matin au port d'Alger. On va parler économie avec deux événements importants. Algeria Invest Expo qui se déroule au centre des conventions d'Oran, seul événement à réunir cinq secteurs différents. Et puis la Cagex qui organise le premier rendez-vous annuel des exportateurs sous le thème Safe Access to Africa. Un terrible accident de train s'est produit tôt ce matin dans la commune de Aïn el-Beda. Il a coûté la vie à un homme âgé d'une quarantaine d'années. À l'étranger, les chefs de la diplomatie du G7 réunis pour évoquer notamment la guerre au Proche et Moyen-Orient qui ne montre pas de signe d'affaiblissement. Et puis sport, retour sur la conférence de presse du coach national Petkovic, animée ce matin en prévision du match face au Guatemala. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais à l'instant, retour sur la visite de Giorgia Meloni en Algérie. La présidente du Conseil des ministres italien a été reçue officiellement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette visite constitue une nouvelle étape dans le processus de renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. Sofia Boukercha.
Le caractère stratégique des partenariats réaffirmés par le président de la République qui souligne le rôle de l'Algérie comme partenaire fiable pour l'Italie et l'Europe. الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية للنفط والغاز وأن أجدد كذلك التزامنا بتعميق وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة. Le chef de l'État salue l'avancement des projets communs et appelle à accélérer la création d'une chambre de commerce entre les deux pays.
خطة ماتي من أجل القارة الإفريقية أشيد بالوتيرة المتسارعة لتجسيد المشروعين المشتركين المندمجين ضمن هذه الخطة مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تميمون، ومشروع إنشاء مركز الامتياز الجزائري الإيطالي أنريكو ماتيي دي البعض الإفريقي في بلعباس للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي. اتفقنا في هذه المناسبة كذلك على تسريع إجراءات إنشاء الغرفة التجارية، واتفقنا على إنشاء الغرفة التجارية على أساس أن تنصب من بعد غرفة تجارية الإيطالية الجزائرية.
De son côté, Giorgia Meloni rappelle le caractère stratégique du partenariat avec l'Algérie et se dit déterminée à le renforcer.
L'Algérie est un partenaire stratégique pour l'Italie et l'amitié entre les deux pays, surtout dans ces conjonctures difficiles marquées par l'instabilité, demeure solide et résiliente. L'Italie et l'Algérie sont toutes deux prêtes à s'entraider, à se soutenir mutuellement. Au cours des dernières années, avec le président Abdelmadjid Tebboune, nous avons beaucoup œuvré pour renforcer cette coopération et les relations bilatérales.
Aussi solide, aussi proficue.
Sur le plan énergétique, elle évoque les projets en cours et les perspectives de leur développement.
Il existe de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons renforcer cette coopération, notamment dans le secteur de l'énergie. Comme l'a indiqué le président Abdelmadjid Tebboune, nous avons décidé de consolider davantage cette coopération solide déjà établie entre les deux entreprises ENI et Sonatra. Cela passera par le développement de nouveaux axes de travail tels que le gaz de schiste, l'exploration offshore, dans le but de renforcer les approvisionnements en gaz de l'Algérie vers l'Italie. Cependant, cette coopération englobe également d'autres secteurs, notamment les énergies renouvelables, la mise en place d'infrastructures stratégiques visant à rapprocher les deux rives de la Méditerranée, en particulier à travers le projet Transmed.
Un partenariat renforcé qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération et de développement entre les deux rives de la Méditerranée.
L'énergie, avec le gaz en particulier, a constitué le point focal de cette visite. Il y a aussi l'agriculture. L'Algérie représente la porte de l'Italie vers l'Afrique, selon l'analyse de Souhila Barrahou, économiste et enseignante-chercheur à l'Institut des sciences politiques à Alger. Elle était ce matin l'invitée du jour avec Nasserine Dahmoun.
Nos amis italiens le disent et le confirment en chaque occasion qui se présente que l'Algérie est un partenaire fiable et sûr et qui honore ses promesses et ses contrats. L'Algérie couvre 30% des besoins de l'Italie, ce qui concerne le gaz. Maintenant, l'avenir, une autre forme de gaz va être servie et desservie pour l'Italie, celui du GNL, qui couvrira 50% aussi des besoins de l'Italie. Donc, dans deux types de gaz, le gaz naturel et puis le GNL. Le GNL aussi est prévu dans les échanges et dans l'exportation, sur le fait que 50% va être la cible dans les échéances des objectifs d'exportation pour l'Italie.
En prévision de Eid al-Adha, en application des directives du président de la République, un premier quota de cheptel ovin importé d'Espagne a été réceptionné ce matin au port d'Alger. Le ministre de l'Agriculture, ou au ministère plutôt de l'Agriculture, en prépare la campagne moisson-battage. Le ministre Yassine El-Mahdi Walid a présidé hier une rencontre nationale ayant regroupé les directeurs des coopératives des céréales et légumes secs, le CCLS, et des cadres de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OIC, consacré à la préparation de cette campagne dont le lancement est prévu la mi-avril, indique un communiqué du ministère. Venons-en à ces rendez-vous économiques avec d'abord le Algeria Invest Expo, la 8e édition du Salon international de l'investissement dans le secteur de l'industrie, du bâtiment, de l'énergie, de la logistique et de l'exportation, qui a ouvert ses portes aujourd'hui au centre des conventions d'Oran. C'est le seul événement d'ailleurs à réunir 5 secteurs différents. Ahmed Hamis, commissaire de l'événement, au micro de Hamza Belmadani.
L'événement est scindé en deux salons parallèles. Il y a le Africa Build Expo, c'est le salon africain du bâtiment et des infrastructures de base, où il y a Industry Expo, qui regroupe les secteurs de l'industrie, l'énergie, la logistique et l'export. Cet événement unique en Algérie qui rassemble ces cinq secteurs qui sont névralgiques et complémentaires de la chaîne économique nationale vise à renforcer les partenariats. Nous espérons que cette édition va contribuer à concrétiser des partenariats pour booster l'investissement. Aussi, l'événement est marqué par la présence d'une quinzaine d'ambassadeurs d'Afrique et d'Europe, dont une douzaine d'ambassadeurs africains. Donc c'est pour l'exportation et pour l'investissement direct. On a 153 exposants dans les deux salons. On a lancé à l'occasion de cette édition le concours de Algeria Invest Awards. C'est un concours qui récompense les meilleurs projets concernant l'impact économique, l'impact environnemental, l'impact innovation. Nous avons 50 participants. Les 5 meilleurs seront honorés le samedi.
L'autre événement est organisé par la CAGEX. Il s'agit du premier rendez-vous annuel des exportateurs sous le thème Safe Access to Africa. Voici un extrait de l'entretien accordé par le PDG de la CAGEX, Hassan Chemache.
D'abord, montrer les potentialités et tout le potentiel du continent africain. Ensuite, le deuxième élément, voir quel est l'instrument le plus important au jour d'aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer pour justement pénétrer ce marché africain. Et le troisième élément, c'est celui de mesurer, analyser et maîtriser les risques en Afrique pour accompagner sérieusement et correctement nos exportateurs vers l'Afrique.
Zoher Laïch répondait, comme je vous le disais, aux questions de Hassan Chemache. Pour la première fois, des universités algériennes figurent dans le classement mondial QS par spécialité. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, l'université Houari Boumediene s'illustre dans plusieurs domaines. Ingénierie, pétrole, génie électrique, électronique, informatique, système d'information. L'université Jilalili Abbès de Sidi Bel Abbès se distingue également en ingénierie mécanique, aéronautique et production, renforçant ainsi la visibilité de l'enseignement supérieur algérien à l'international. Dernier jour des épreuves orales pour le concours de recrutement des enseignants dans l'éducation nationale. Ils sont près de 21 000 rien que dans la wilaya de Bouira. Aris Chachoua.
À Bouira, le nombre de postulants est important, estimé à 21 254 candidats. Pour que le passage des épreuves soit fluide, Fatah Bouchouareb, le directeur de l'éducation par intérim, affirme que toutes les dispositions ont été prises. Les candidats se présentent au centre d'examen selon un planning bien établi, mentionnant la date et l'heure du passage au jury d'examen. Le CEM d'Oubaïssi est centre d'examen. Il a reçu 973 candidats, Sadr Bellel, chef du centre.
On a ici 8 jurys, une jury d'informatique, jury autre éducation islamique, l'autre jury, c'est le jury de l'histoire géo. Nombre de candidats, on a 973 au total. On a préparé tout notre centre pour que les candidats soient dans de bonnes conditions.
Selon les candidats, les épreuves se sont déroulées dans des conditions convenables.
Passer l'examen en sciences naturelles, ils nous ont bien reçus.
Je vais passer l'examen de sciences, tout est organisé, les conditions sont convenables à nous.
Dans ce centre, nous avons rencontré Malik Trissi, 52 ans. Il serait le doyen des postulants.
J'ai eu mon premier diplôme à l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa en 1998. J'ai travaillé jusqu'en 2023 où j'ai repris le chemin de l'université pour avoir mon master en décembre 2025.
Le grand nombre de candidats confirme l'intérêt croissant pour la profession d'enseignant, attirant aussi bien les jeunes que des postulants plus âgés pour qui enseigner serait une véritable passion. Bouira Aris Chachoua, Algeshan 3.
Et à Annaba, plus de 25 centres ont été aménagés pour accueillir les candidats. Fatima Zahra Bouledroua.
L'épreuve orale de l'examen de recrutement des enseignants dans le secteur de l'éducation nationale se poursuit pour les 20 441 candidats. Mortar Laouemer, directeur de l'éducation de la wilaya de Annaba.
Tout se passe dans de bonnes conditions. Nous avons plus de 20 000 candidats répartis sur 25 centres. Nous avons effectué des visites sur le terrain. Nous avons constaté une affluence régulière des candidats à l'examen.
Au niveau du centre d'examen Moubarak El-Mili, les candidats sont plutôt satisfaits.
Je m'appelle Nadia Hassani, j'ai 36 ans. Je suis candidate pour passer le concours oral au lycée Moubarak. Donc, on a été très très bien accueillis par le directeur qui nous a déstressés dès le départ. C'était une ambiance calme, sereine. Donc, je viens de passer le concours à l'instant oral. Le jury a été très très souriant, très compréhensif.
De Annaba, Fatima Zora Bouledroua pour Alger Chaîne 3.
12h42 minutes, le Parlement réuni hier en ces deux chambres a adopté à l'unanimité le projet de loi portant amendement technique de la Constitution. Ce projet de loi ne modifie en rien le contenu de la loi fondamentale. Hanan Saïsi.
Au total, 12 articles de la loi fondamentale amendés dans leurs aspects techniques. Parmi les principales mesures, l'introduction de l'exigence de niveau d'instruction pour les candidats à la magistrature suprême, une mesure qui fait son entrée et complète les dispositions en vigueur jusque-là. D'autres ajustements concernent le Conseil de la Nation avec l'allongement du mandat de son président à 6 ans et des mécanismes de gestion de la représentativité des wilayas récemment créé. La révision apporte également des clarifications sur le rôle de l'autorité nationale des élections, dont les missions sont étendues à la supervision et le contrôle des élections, la préparation logistique et matérielle des scrutins confiés à l'administration. Et puis cet amendement qui octroie au président de la République le pouvoir de convoquer des élections locales anticipées, une disposition qui vient combler un vide juridique. Une révision technique ciblée qui s'inscrit dans une logique d'adaptation progressive des institutions.
Le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a affirmé que l'amendement technique de la Constitution constitue l'amorce d'une nouvelle ère pour des institutions plus cohérentes et plus solides. La Cour constitutionnelle organise en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale une cérémonie en l'honneur des élèves lauréats du concours des meilleurs travaux scolaires sur le thème « La Constitution et la citoyenneté ». Cette cérémonie est prévue cet après-midi. Terrible accident de train ce matin à Omle-Bouagui, dans la commune de Aïn el-Beida plus précisément, où il a coûté la vie à un homme âgé d'une quarantaine d'années. Le récit de Nasser Benissam.
Un homme de 38 ans a été fauché ce matin par un train assurant la ligne Khenchla-Constantine, a indiqué la direction de la protection civile de la wilaya d'Oum el-Bouagui. La même source a précisé que ces services sont intervenus à 6h40 que cela s'est produit au lieu dit Birounès, commune et Daïra de Enbeda. La victime a été transportée à la morgue de l'EPH local. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce tragique accident. De Moulbouagui, Nasser Benissam pour Al-Chin 3.
Une quantité de 56 kg de kif traité a été saisie et deux personnes arrêtées à Tebessa. L'opération a été menée par les services de sûreté de la wilaya qui ont découvert la drogue soigneusement dissimulée dans un véhicule. Les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tebessa. À l'étranger, des négociations indirectes sont en cours pour mettre fin à la guerre au Proche et Moyen-Orient. C'est ce qu'indique Islamabad qui joue le rôle d'intermédiaire selon le ministre des Affaires étrangères pakistanais. Les États du Golfe veulent être impliqués dans toute discussion entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à cette guerre, affirme pour sa part le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe. Les chefs de la diplomatie du G7 en conclave ce week-end pour évoquer donc notamment cette guerre et les conséquences commerciales qui inquiètent, ces conséquences commerciales qui inquiètent la sphère économique mondiale, Amel Azib.
Oui, tout à fait, puisque les voyants sont au rouge. Le système du commerce mondial est en proie aux pires perturbations depuis 80 ans. Une alerte ce matin de la directrice générale de l'Organisation du commerce à l'ouverture de la 14e conférence ministérielle de l'OMC qui se tient à Yaoundé. L'ordre mondial, il faut le dire, est ébranlé, a-t-elle dit, après la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. À Paris, les membres du G7 sont donc en conclave pour 2 jours. Ils vont tenter de trouver une solution au conflit. La ministre canadienne des Affaires étrangères a un petit peu tracé la tendance. Le G7 appelle à soutenir collectivement une désescalade au Moyen-Orient. Le G7 qui veut plus opter pour des canaux diplomatiques, s'assurer qu'il n'y a pas qu'il y a un sens collectif, pas seulement pour une désescalade, mais surtout pour une atténuation du choc économique. Le transit commercial du détroit d'Ormuz, par lequel passe près de 20% de la production mondiale de pétrole, il faut dire, est quasi paralysé depuis le début du conflit le 28 février dernier, après les frappes israélo-américaines sur l'Iran. La diplomate canadienne a souligné la dimension multilatérale du G7 tout en relevant l'importance par ailleurs d'avoir l'Arabie Saoudite parmi les pays invités. Les chefs de la diplomatie des grands pays émergents comme l'Inde et le Brésil vont participer au débat. Ils sont invités donc à ce sommet qui va durer 2 jours. Les pays du G7 hors États-Unis ne cesseront d'appeler à la désescalade et refusent d'être engagés militairement dans un conflit aux répercussions économiques mondiales.
Les cours du pétrole qui remontent légèrement ce jeudi. Les bourses asiatiques évoluent sans direction évidente au 27e jour de cette guerre. Le Brent de la mer du Nord, référence du marché pétrolier mondial, a évolué en hausse de près de 2% et s'établissait à 103, puis près de 104 dollars pour être précis. Au Soudan, Guterres condamne l'attaque des FSR contre un hôpital du Darfour ayant fait au moins 70 morts. Le patron de l'ONU appelle les parties au conflit à convenir d'une cessation des hostilités. l'actualité. On arrive au sport. Rostom Yahyachev, bonjour.
Bonjour, Sia.
Va nous dire ce qu'il y a à retenir de la conférence de presse animée ce matin par le coach national.
Et Vladimir Petkovic, qui était accompagné ce matin de deux joueurs, Houssam Aouar et Amin Gouil, il est revenu essentiellement sur la liste élargie et notamment celle qui devrait prendre part à la prochaine Coupe du Monde prévue cet été. Il a déjà son idée et une liste élargie et que ce stage de mars déterminera ceux qui mériteront leur convocation pour le Mondial. Il est revenu également sur la convocation du défenseur de l'USM Alger, Achraf Abada, estimant que c'est un joueur important avec beaucoup de qualité. Été remarqué notamment lors des séances d'entraînement depuis le début de ce stage. Sur le poste de gardien de but, je rappelle 4 gardiens de but convoqués, et bien pour lui on pourrait voir 2 gardiens différents lors des 2 matchs face au Guatemala demain prévu à 20h30 et l'Uruguay mardi prochain, ça sera à 19h30. Houssam Aouad de son côté a exprimé sa déception par rapport à son absence lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais fera tout pour être présent au Mondial en restant bien sûr concentré sur les prochains matchs de préparation des Verts. Les Verts qui se déplaceront cet après-midi vers la ville de Gênes pour préparer et disputer demain à partir de 20h30 demain soir ce match, ce premier match de préparation face au Guatemala.
Venons-en à cette activité qui pourrait occuper vos enfants durant les vacances scolaires, une initiation au théâtre à travers le projet Holm. Sid Ali Fares nous en dit davantage.
Après avoir semé les graines à mascara et fait vibrer les sables de Béchar, la 4e édition du projet Holm s'apprête à jeter l'encre à Tipaza. 14 établissements scolaires deviennent des laboratoires d'éveil. Le responsable du projet, Hossein Mouhtar.
C'est l'accompagnement psychologique à travers des exercices, beaucoup d'actions environnement, de peinture et de musique. Si on n'a pas gagné des comédiens, on va gagner un public.
L'école ne se contente plus de tableaux noirs. Elle s'ouvre au théâtre, à la musique, à la danse et à la conscience de protéger l'environnement. Karim Tidjani, formateur en développement durable.
Je vais former huit encadreurs des enfants à ce que j'appelle moi l'éducologie. Pas seulement l'éducation à l'écologie, mais aussi l'écologie de l'éducation. C'est-à-dire comment construire un atelier qui sera pas un cours classique, mais une expérience que vont vivre les enfants à travers le théâtre pour comprendre ce que c'est un écosystème, ce que c'est le développement durable et comprendre aussi que, en fait, au final, l'écologie, c'est l'intelligence de l'habitat.
Chaque discipline du projet Holm est une fenêtre ouverte sur le monde. Le formateur en éveil artistique Khaled Belhadj.
Il faut que nos enfants apprennent à affronter chaque seconde et la vivre pleinement. Bien sûr, les libérer un petit peu de ce côté oppressif, directif, où les enfants sont coincés et ils sont démunis de leur spontanéité, où toute la création réside.
L'essence de Holm, apprendre à nos enfants que leur imagination est le plus puissant des bagages pour affronter demain.
C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Segni et Mohamed Zawi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Adlène qui était aujourd'hui à la technique, Hossine à la régie d'antenne, Shiraz au streaming vidéo.